Annette, ma sœur, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais que nous parlions de ce que nous appelons aujourd'hui la Shoah, mais qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et qu'on pourrait peut-être commencer cet échange à partir de ce qui est venu marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, vu sous cet angle, le procès de Nuremberg. Est-ce que tu peux nous préciser ce qui s'est joué à Nuremberg et en quoi cela nous éclaire sur l'ensemble du processus de destruction des Juifs d'Europe?
Oui, tu as parfaitement raison. C'est un événement qui n'a pas de nom, sauf dans le cercle très restreint des victimes, où on le nomme d'un terme yiddish, le Horban, la destruction, par analogie aux destructions des deux temples. Et même pendant le procès de Nuremberg, alors que le terme de génocide a déjà été inventé par le juriste international Raphaël Lemkin, il n'est pas utilisé ou très peu utilisé lors du procès de Nuremberg et il ne figure pas parmi les quatre chefs d'accusation. Il y a le crime contre l'humanité, mais il n'y a pas le crime de génocide. Alors Nuremberg...
Quand d'abord ?
Alors Nuremberg, le procès de Nuremberg a été décidé par les trois grands alliés. La France a été cooptée pour faire partie des quatre grands un peu plus tard, dès 1943, à la conférence de Moscou. L'idée, c'était que l'on allait juger les grands criminels, le grand criminel défini par celui qui avait commis ses crimes dans plusieurs pays. Les discussions ont été assez acharnées à Londres, entre les quatre grandes puissances qui elles-mêmes représentaient ce qu'on appelait les Nations Unies, c'est-à-dire les autres pays qui étaient de leur côté dans la guerre. Les quatre grandes puissances étaient l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France. Ces discussions qui ont lieu à Londres ont abouti aux accords de Londres, à la charte du tribunal et au choix de 24 accusés à qui va être lu l'acte d'accusation en octobre 1945 et le procès s'ouvre le 20 novembre 1945 à Nuremberg.
Alors,
j'ai dit 24, mais dans le box des accusés, si on compte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos de Nuremberg, on n'en compte que 21. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un, Robert Ley, qui se suicide dans sa cellule de Nuremberg, qui était le responsable du Front du Travail. Il y a le responsable de la chancellerie, Martin Bormann, dont on pense qu'il est en fuite et qui sera jugé par contumace, dont on sait aujourd'hui qu'il est mort dans les bombardements de Berlin à la fin de la guerre. Et il y a Krupp qui est mis en accusation. Mais on s'est trompé, on en a pris un qui était un peu sénile. Donc du coup, on abandonne et il n'y a donc que 21 accusés dans le box.
Donc, c'est le moment final, si je peux dire, de cette guerre et de la destruction des Juifs d'Europe. Est-ce qu'on peut maintenant revenir en arrière, en quelque sorte, et réfléchir
Oui, ce qui est important à Nuremberg, c'est que le génocide des Juifs est partout présent, mais il n'apparaît pas comme un aspect particulier de la criminalité nazie.
Donc, à l'époque, on ne le dissocie pas d'autres crimes.
On ne le dissocie pas vraiment d'autres crimes.
Et donc, je pense qu'il faut maintenant dire ce qu'ont été ces autres crimes, mais surtout ce crime-là, peut-être dire un mot de crimes qui s'en rapprochent vis-à-vis d'autres groupes que les Juifs. Est-ce qu'on peut avoir maintenant une image de ce qu'a été ce processus de destruction des Juifs qui aboutit à Nuremberg ?
Absolument. Dès que les nazis arrivent au pouvoir dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire à partir de janvier 1933, ils mettent sur pied une persécution des Juifs. La persécution, c'est d'abord de définir qui est juif, ce qui est très compliqué, contrairement à ce que l'on peut croire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va définir quelqu'un de juif ? C'est ensuite de les exclure de la nation, de les exclure de la vie économique. Les étapes suivantes seront de les parquer dans des ghettos dans certains pays, et puis ensuite de les détruire. Alors quand je dis ça, je donne le sentiment qu'il y a une voie toute droite qui va du début de la persécution à la destruction des Juifs d'Europe. En réalité, les choses ne sont pas passées comme ça, et c'est pas parce qu'il y a une politique que l'on pourrait presque appeler d'apartheid que l'on débouche sur un génocide.
Il y a des théories différentes, je suppose, pour rendre compte de ce processus que tu décris comme scandé en quelque sorte par des ruptures ou des passages à une étape supérieure. Est-ce qu'on peut avoir une image des principales théories qui s'affrontent pour rendre compte de ce processus, et est-ce que tu peux dire pourquoi il te semble que telle ou telle théorie est plus adaptée ?
Alors le vrai grand débat historiographique, ça a été celui des années 80, qui a opposé ceux qu'on a appelés les intentionnalistes et ceux qu'on a appelés les fonctionnalistes ou les structuralistes. Les intentionnalistes, comme le terme même l'indique, mettaient en avant l'intention, et notamment l'intention de Hitler. Et il mettait l'accent sur le fait qu'il devait y avoir nécessairement une décision qui impose la destruction des Juifs d'Europe. Les fonctionnalistes ou structuralistes, au contraire, disaient qu'il n'y a pas d'intention, mais il y a juste un ensemble de processus, des rivalités entre différents appareils de l'État nazi, et tout ça spontanément va créer les conditions de la destruction. Alors sur cela s'est greffé un débat très vif qui aujourd'hui n'a plus lieu, sur la question de la date. À partir de quel moment peut-on parler de solution finale ? Certains disant il y a solution finale à partir du 22 juin 1941, quand la Wehrmacht, l'armée allemande, rentre à l'Est, hein, en Union soviétique, quand est brisé le pacte germano-soviétique. Donc à partir de ce moment-là commencent les massacres systématiques par fusillade à ciel ouvert, d'abord des hommes juifs et des commissaires politiques, et ensuite, à partir de août, des hommes, femmes, enfants juifs. Donc on pourrait parler de génocide régional. Et d'autres disant non, il y a génocide à partir de décembre 1941, quand les États-Unis entrent en guerre, et quand, à partir de ce moment-là, est vraiment décidé de mettre en œuvre une solution qui est vraiment finale, c'est-à-dire qui concerne non pas les Juifs que les Allemands trouvent sur place quand ils arrivent, mais tous les Juifs qu'ils peuvent aller chercher au fin fond de tous les pays qu'ils occupent.
On dit souvent que c'est la conférence de Wannsee qui est le moment où la chose est dite.
Alors, la conférence de Wannsee, elle a un immense mérite, c'est la clarté de ce qui est dit. Alors, quand on la regarde bien...
C'est en quelle année ?
C'est le 20 janvier 1942. Quand on regarde très bien Wannsee, on s'aperçoit que dans notre langage d'aujourd'hui, ça serait tout simplement une interministérielle. C'est-à-dire, toutes les administrations allemandes, des chemins de fer jusqu'à l'intérieur, qui sont concernées par la destruction des Juifs, sont là pour l'organiser. Et surtout, le texte, le protocole de la conférence de Wannsee, dont Adolf Eichmann a été le secrétaire, est très clair, puisqu'il donne à la fois des statistiques des Juifs encore vivants en juin 1942 en Europe. J'allais dire en Europe nazie, mais il y a aussi les Juifs anglais, donc pas simplement les Juifs de l'Europe nazie. Et il a le mérite de parler clairement de destruction. Donc la plupart des historiens aujourd'hui considèrent que Wannsee n'est pas le lieu d'une décision, mais le lieu d'une organisation, d'une décision prise antérieurement entre... On discute encore entre octobre, c'est-à-dire au moment où l'armée allemande se trouve bloquée devant Moscou, ou décembre, après Pearl Harbor, c'est-à-dire après l'entrée des États-Unis dans la guerre.
jusqu'ici, dans ce que tu nous dis, on a le sentiment qu'il y a un État, un pouvoir, des ministères, des administrations, que tout se joue en haut, dans l'appareil nazi. Mais je crois aussi qu'il y a des débats pour savoir jusqu'à quel point tout ceci ne correspondait pas à des attentes de la population. Il y a eu des polémiques, je crois aussi me souvenir, dans les années 80 ou 90, pour dire qu'en réalité, depuis très longtemps, une grande majorité des Allemands, et pas, donc, pas seulement donc de cet appareil, pouvaient se reconnaître dans l'antisémitisme. Est-ce que tu peux nous dire un mot des débats qu'a suscité donc, ce genre de thèse et de la situation donc, de l'historiographie aujourd'hui ?
Alors, la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la place de l'antisémitisme dans l'idéologie nazie, a beaucoup varié selon les historiens et selon les époques. Dans les années qui ont suivi la guerre, on pouvait dire que les questions idéologiques ne tenaient pratiquement aucune place. Et puis, quand on regarde les fonctionnalistes, on n'a pas besoin d'être antisémite pour détruire les juifs, puisque c'est uniquement une question de jeu d'appareil. Alors aujourd'hui, et grâce notamment à certains historiens, comme un de ceux qui, pour moi, est majeur, qui est Sol Friedlander, on redonne une place à l'idéologie. Et Friedlander caractérise l'antisémitisme nazi comme un antisémitisme rédempteur, c'est-à-dire comme amorçant une rupture avec les antisémitismes précédents. Pourquoi ? D'abord parce que pour le nazisme, enfin, il y a d'autres antisémitismes aussi, mais pour le nazisme en tout cas, rien ne permet d'échapper au fait qu'on est juif, donc ça c'est l'antisémitisme moderne, alors que dans les périodes passées, la conversion au catholicisme, au protestantisme, permettait de ne plus être juif. Mais surtout, dans l'idéologie nazie, il y a cette idée qui nous apparaît comme étant folle, mais qui est une croyance fortement ancrée dans les jeunes cadres intelligents, diplômés, qui forment le gros de l'ASS et surtout de l'appareil de destruction des juifs, qu'il faut extirper les juifs de l'Allemagne sous peine de voir l'Allemagne détruite et d'empêcher de s'installer le Reich de Milan. C'est l'antisémitisme rédempteur que définit Sol Friedlander. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'élite nazie, hein, je pense aux travaux de l'Allemand Michael Wild et en France à ceux de Christian Ingrao, que l'élite nazie était formée d'hommes jeunes, diplômés, des doctorats des meilleures universités, et qui étaient mus par une croyance, qui était la croyance qu'il fallait détruire les Juifs, car sinon les Juifs détruiraient l'Allemagne.
Et donc l'idée que cette idéologie puisse être très présente dans le corps social, beaucoup plus largement, et pas simplement au sein de ces élites, ou de ces appareils, c'est une idée qui n'est pas contestée aujourd'hui, ou qui est contestée ?
Alors, ce qui peut être contesté, c'est la centralité de l'antisémitisme, alors qu'il y a bien, bien d'autres aspects qui permettent de comprendre l'adhésion au nazisme de la population allemande, et notamment l'adhésion au nazisme jusqu'à la fin. Un des grands historiens, un des grands biographes d'Hitler, un Britannique, s'appelle Yann Kershaw, a écrit un ouvrage qui s'appelle « La fin ». Donc je ne suis pas sûr que l'antisémitisme est un élément de l'adhésion au nazisme. À partir du moment où où le génocide des Juifs est perpétré, à ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que il y a bien chez les nazis le sentiment que quelque chose a été transgressé en assassinant de façon systématique, notamment les enfants, les vieillards, des catégories qu'on n'assassine pas normalement dans les guerres.
Cette haine des juifs, cet antisémitisme, n'est pas la seule obsession des nazis. C'est le cœur. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si centrale par rapport, par exemple, aux tziganes ou par rapport peut-être à d'autres groupes ?
Alors c'est très compliqué parce que sur les tziganes, il y a une très longue discussion pour savoir si l'essence même des tziganes n'est pas d'être les purs ariens. Et les tziganes ne sont pas définis de façon raciale, je mets des guillemets hein, bien évidemment, comme le sont les juifs. Les premières persécutions des tziganes, elles sont parce qu'ils sont considérés comme des asociaux, comme des nomades, comme des populations qui vont empêcher le droit chemin des populations allemandes. Et l'idée de détruire les tziganes vient relativement tard, hein, c'est le décret d'Himmler qui date, me semble-t-il, de décembre 42, il me semble. Donc c'est le Zigeuner Erlass. Et avant. Et la grande différence, c'est que les seuls tzigeuners, hein, maintenant les tziganes, comme on aseptise tout le langage, veulent qu'on les appelle Sinti et Roma, à l'époque nazie, ils sont désignés comme tzigeuners, les tziganes ne sont persécutés et assassinés que dans le Vieux Reich. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont victimes et qui sont persécutées, mais de façon spécifique en Allemagne et pas ailleurs. C'est le cas des tziganes et c'est le cas aussi des homosexuels. Les homosexuels en France ne sont pas particulièrement persécutés et certainement pas déportés, à l'exception de ceux de ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine. En fait, c'est l'Alsace-Moselle qui, eux, sont dans des territoires qui sont annexés à l'Allemagne nazie à partir de 40. Donc ils sont, si je puis parler ainsi, sous régime allemand. Mais sinon, les tziganes ou les homosexuels ne sont pas dans des camps quand ils ne sont pas à l'intérieur de l'Allemagne nazie.
Quand on parle de la destruction des Juifs, on pense d'abord, à juste titre, au nazisme, à ses appareils, à tout ce qu'il a mis en œuvre. Mais évidemment, surtout quand on est en France, on se demande si d'autres appareils, d'autres États ont eu, et jusqu'à quel point, une responsabilité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'a été la responsabilité de l'État français, c'est-à-dire l'État de Vichy à l'époque ?
Alors, la responsabilité de l'État français est d'autres États, mais il faudrait chaque fois regarder quel est le régime d'occupation par l'Allemagne nazie. Elle a été considérable, puisque c'est l'administration de l'État français qui a été mise au service de l'Allemagne nazie. Je vais donner un exemple très simple, le recensement. Parce que j'ai dit précédemment que c'était très difficile de savoir qui était juif. Donc, pour savoir qui est juif, on demande aux juifs de se déclarer eux-mêmes comme juifs. Un peu comme les recensements pour la journée militaire et dans le temps pour le service militaire. Donc, le recensement en France est ordonné par l'armée allemande, par le commandement militaire allemand. C'est donc une ordonnance allemande. Mais ensuite, c'est l'administration française qui fait le recensement de façon pratique et qui va faire les fichiers dans lesquels les Allemands vont puiser pour arrêter les Juifs en mai 41, en août 41, en décembre 41, et surtout dans la plus grande arrestation massive, qui est la rafle du Veldiv des 16 et juillet 42. Donc il y a une sorte de complémentarité des appareils de persécution allemands et français, avec parfois même de la rivalité entre les deux, et de cette rivalité, les Juifs sont victimes. Par exemple, la rafle du Veldiv, c'est la proposition de mettre la police française au service des Allemands, c'est pour bien marquer que la France reste un État qui garde une partie de sa souveraineté, sans voir que la tâche morale sur l'administration française et sur la police sera ensuite indélébile.
Le débat sur Vichy a été extrêmement vif en France. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui il est clos, que les choses sont claires, ou est-ce qu'on a le sentiment, est-ce qu'il faudrait envisager des rebondissements ?
Alors il nous est donné, plutôt pour le pire que pour le meilleur, d'assister ces derniers temps à des retours vers des thèses que l'on croyait définitivement abandonnées. C'est pas le propre de la France, on a ça en Pologne, on a ça en Hongrie, on a eu ça en Croatie. Donc on a une situation qui est très particulière. Et le grand débat sur Vichy, qui a vraiment déchiré la France de la fin des années 70, années 80, et qu'on a pensé à peu près clos par le grand discours de Jacques Chirac après son élection à la présidence de la République, le discours du 16 juillet 1995, ce débat était en quelque sorte réentrouvert, parce qu'aucun historien sérieux n'a mis en cause les travaux qui avaient été faits depuis la période de Paxton, par des polémistes comme Zemmour, qui ont commencé à expliquer que Pétain, en fait, avait sauvé les Juifs français en acceptant quasiment à contre-cœur de lâcher les Juifs étrangers. Or, les Juifs français, ils ont été recensés comme les autres. Ils ont été spoliés de leurs biens par la grande loi de Vichy, comme les autres. Et s'ils ont moins mal survécu, c'est parce qu'à un moment donné, Vichy a pris conscience du fait que l'opinion publique n'était pas très favorable à ce qui était en train de se passer, et puis aussi parce qu'il était plus facile à des gens qui étaient français, qui parlaient français, qui avaient des copains de lycée, de régiment, de fac, de polytechnique, que sais-je, de se cacher qu'un petit tailleur juif qui ne parlait que yiddish et qui n'avait pratiquement jamais quitté son atelier.
Quand on parle de la destruction des Juifs, on a d'abord en tête les images des camps Auschwitz. Premièrement, il y a eu différents types de camps, et je pense que ce serait important que nous en sachions plus sur les différents types de camps, premièrement. Et puis deuxièmement, il n'y a pas eu que des meurtres de masse dans les camps. Il y a eu sur le front de l'Est d'autres façons d'exterminer les Juifs. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir une image du paysage d'ensemble de cette destruction ?
Alors, trop souvent, on a confondu les camps de concentration comme Buchenwald, Dachau, Mauthausen ou Ravensbrück pour les femmes, avec ce que le grand historien américain Raoul Hilberg a appelé les centres de mise à mort comme Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz-Birkenau.
Alors, quelle est la différence ?
La différence, c'est que les camps de concentration sont ouverts dès 1933. Et leurs effectifs jusqu'à la guerre sont relativement limités. C'est des instruments de la terreur. Et ils sont très facilement comparables à d'autres camps de concentration, notamment à ceux du goulag soviétique, mais les camps qui existent toujours en Corée du Nord, par exemple, ou les camps qui ont existé, qui existent partiellement encore en Chine, à la grande époque du maoïsme. Le centre de mise à mort, c'est une exception, et ça reste une exception. C'est un terminal où on amène des gens uniquement pour les assassiner à la chaîne. Peu importe le moyen de cet assassinat. Ça peut être par balle, comme dans la forêt de Ponard, près de Vilno, mais ça peut être par gaz, camion à gaz, à Chełmno, avec un système très, très frustre, en fait, de gens qui sont gazés pendant que les camions roulent, ou le cyclone B, comme à Birkenau. Il n'y a pas d'installation fixe, il n'y a qu'un des rares juifs qui ont été soustraits à l'assassinat pour, notamment, traiter les corps et traiter les biens des victimes. Cette chose-là, elle reste unique dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres génocides, mais le fait de tuer à la chaîne des personnes qu'on a emmenées, femmes, hommes, enfants, pour les tuer à la chaîne, on ne trouve pas d'exemple avant et pas d'exemple après. Si on regarde le total des 6 millions de morts, ou Hilberg dit moins, certains disent plus aujourd'hui, ces comptages qui sont très compliqués, on voit bien qu'il y a eu d'abord, en Union soviétique, par les Einsatzgruppen, par les groupes spéciaux, que Raoul Hilberg appelle les équipes mobiles de tuerie, à peu près 1,5 million de personnes qui ont été assassinées par fusillade. Surtout sur le premier front de l'Est. Il y a eu aussi un nombre considérable de Juifs qui sont morts de faim, notamment dans les ghettos, le ghetto de Varsovie. Et puis il y a eu des Juifs qui sont, surtout dans la dernière période, quand on décide de les utiliser comme main d'œuvre aussi, qui sont morts de faim, de mauvais traitements. Voilà. Donc il y a plusieurs modalités de cette mise à mort. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est cette histoire sans précédent de ces lieux où on assassine à la chaîne. Alors, Hilberg, malgré tout, dit qu'il y a eu un précédent. Le précédent, c'est les malades mentaux. C'est-à-dire un État qui décide qu'une vie ne doit pas être vécue, qu'une vie est indigne d'être vécue. Et Hilberg montre bien qu'il y a une préfiguration conceptuelle, administrative, puisque c'est les mêmes équipes, et technique, puisqu'on va utiliser aussi d'abord les camions à gaz et ensuite d'autres moyens de gazage, entre la grande opération qu'on appelle d'euthanasie, c'est-à-dire d'assassinat de ceux que l'on désigne comme malades mentaux ou handicapés physiques, et le génocide des Juifs.
Tu as évoqué il y a un instant le fait que certains Juifs travaillaient non pas seulement dans les camps, mais pour les besoins de l'Allemagne de façon plus générale. C'est quelque chose qui est toujours très difficile à comprendre. Comment, au moment où l'effort de guerre devrait être maximal, où il faudrait produire de plus en plus de quoi, d'une part, nourrir la population allemande ou la faire fonctionner, et d'autre part, de quoi faire la guerre, comment comprendre que les nazis, y compris dans la dernière phase du camp d'Auschwitz-Birkenau, comment comprendre que, alors qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre, d'une certaine manière, juive, certes, mais main-d'œuvre, ils aient jusqu'au bout donné une sorte de priorité à l'extermination sur le projet guerrier.
Alors je nuancerai quand même, parce que à la rampe, ce qu'on appelle la rampe, c'est-à-dire le quai d'arrivée des convois, notamment de la dernière grande opération qui a lieu, alors il y a quelque chose de poignant, parce que cette dernière grande opération, elle a lieu alors que le débarquement a déjà eu lieu. Hein. Les nazis et la petite équipe d'Eichmann entrent en Hongrie en mars 1944. Et la déportation des Juifs hongrois va durer 7 semaines, se terminer le 7 juillet 1944, alors que les Alliés ont débarqué, bon, déjà depuis un moment en Sicile, mais en Normandie, en juin 1944. Hein, donc, comme on dit de façon un peu pompeuse, la libération de la forteresse Europe a commencé. Mais à l'arrivée à la rampe, il y a une ligne directe avec Albert Speer, qui est le responsable de la main-d'œuvre, et on sélectionne, je mets bien évidemment des guillemets, beaucoup de jeunes gens, hommes et femmes, capables de travailler pour les envoyer dans ce qu'on appelle des commandos, qui sont en fait des usines qu'on essaye d'enterrer pour les protéger des bombardements. Donc d'un côté, on continue à exterminer, à assassiner, mais d'un autre côté, on sauvegarde, on prélève une partie de ceux qu'on estime être capables de travailler et qu'on expédie dans toute l'Allemagne. Par exemple, le premier camp qui a été libéré, le premier commando qui est celui d'Ordruf, il y avait à peu près une dizaine de milliers de concentrationnaires, en majorité juifs, mais aussi quelques-uns qui ne l'étaient pas, en majorité hongrois, mais d'autres qui n'étaient pas hongrois, qui étaient en train de construire des galeries souterraines pour enterrer des usines et enterrer le quartier général d'Hitler. Donc on est, quand Ordruf est créé, en octobre-novembre 1944, c'est-à-dire à la toute fin de la guerre. Donc il y a les deux, et puis ce travail, que ce soit à Ordruf, dans des tas d'autres camps, est un travail bien évidemment mortel pour les concentrationnaires qui sont affectés.
Donc on comprend mieux maintenant l'aboutissement Nuremberg. Mais j'ai envie de retourner à l'ensemble de ce que nous venons d'évoquer. Nuremberg, c'est donc ce moment où une partie des plus grands criminels nazis sont jugés. On vient de voir qu'il y a tout processus historique très compliqué, dans plusieurs pays, avec un appareil, avec des événements sur lesquels maintenant on est à peu près au clair, me semble-t-il. Est-ce que, si on ramasse les analyses que tu viens de proposer, qu'il s'agisse de la relation entre le travail et l'examination, de la différence entre la concentration et le meurtre de masse, qu'il s'agisse de la façon dont ces processus se sont produits, est-ce que Nuremberg a été le moment où on a vraiment bien compris tout ça? Ou est-ce que Nuremberg doit être vu autrement que simplement le moment où tout est mis à plat, tout est compris? Les historiens ont montré beaucoup de choses ensuite.
Alors Nuremberg, c'est un moment considérable. Ça fait partie à la fois de la construction de cette après-guerre, dont nous sommes en train de sortir seulement maintenant, en fait, seulement depuis la chute du communisme. Donc c'est un moment de l'après-guerre, c'est un moment clé de la naissance réellement de la justice internationale, dont nous sommes peut-être aussi en train de sortir aujourd'hui. Et ça fournit quand même le premier récit sur la guerre et beaucoup d'archives. Et c'est à partir des archives de Nuremberg, c'est-à-dire des papiers qui ont été produits comme preuve pour le procès, qu'ont été écrites les premières histoires. Bréviaire de la haine de Léon Poliakov et la première mouture de la destruction des Juifs d'Europe par Raoul Hilbert, qui est sa thèse, même s'il ne pourra la publier qu'après le procès Eichmann en 61. Mais depuis, au moment du procès Eichmann, il y a 4 ou 5 livres d'histoire sur la destruction des Juifs d'Europe, peut-être même que 4. Aujourd'hui, il y a une bibliothèque qu'on ne peut plus maîtriser, que plus aucun chercheur ne peut maîtriser, parce que beaucoup d'archives et beaucoup de problématiques nouvelles. On cite souvent cette phrase, je crois, de Croce, « Toute histoire est contemporaine », ce qui est bien évidemment tout à fait vrai. Mais il est sûr qu'un certain nombre d'événements qui se sont produits entre le procès de Nuremberg et aujourd'hui a fait bouger, y compris l'historiographie de la Shoah. Par exemple, l'apparition avec les guerres de l'ex-Yougoslavie de l'idée d'épuration ethnique et d'idée de remodelage ethnique, ça a beaucoup influencé un certain nombre d'historiens, par exemple Goetz-Ali, ou Michael Weil que j'ai cité, ou Christian Ingrao que j'ai aussi cité, qui ont porté leur attention sur la colonisation nazie à l'Est et sur la volonté des nazis de germaniser en faisant de la place, en fait, pour ce qu'on appelait les Volksdeutsche, les Allemands ethniques qui se trouvaient dans la partie orientale de l'Europe, en annihilant les Juifs et en déplaçant massivement les populations polonaises. Donc, l'histoire est aussi la réflexion en histoire et la façon de chercher ou les questions qu'on pose à l'histoire sont aussi tributaires des préoccupations du présent qui permettent de mettre en lumière d'autres aspects du passé.
Dernière question. On dit parfois l'unicité de la Shoah. Et puis on entend parfois répondre, il y a eu quand même d'autres génocides. Qu'est-ce qui reste unique et qu'est-ce qui fait donc qu'on ne peut pas mettre ce génocide-là sur le même plan que d'autres et qu'est-ce qui fait qu'il appartient à une même famille, les génocides?
Bon, moi je ne suis pas une fanatique des genocide studies telles qu'elles existent aux États-Unis et telles qu'elles commencent à exister en France. Je trouve que ça écrase, qu'au lieu de comprendre, ça obscurcit. C'est-à-dire qu'on prend des grilles d'analyse qu'on plaque sur des événements. Alors il faudrait revenir à la définition que donne Lemkin du génocide et qui a été intégrée dans la convention de la convention adoptée par les Nations Unies en 1948 qui veut punir et prévenir les crimes de génocide. Le génocide, c'est pas la taille, ce qui est prédominant dans le génocide, c'est la question de l'intention. L'intention de détruire un groupe, que ce groupe soit politique, religieux ou ethnique. Alors, quand on relit bien cette convention, qu'on lit le livre de Lemkin sur les génocides, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des génocides. Et un des exemples qui va plus frapper chez Lemkin, c'est la persécution et le massacre des catholiques japonais au XVIIIe siècle. Bon. Donc, il y en a plein. L'histoire, on pourrait presque dire, en paraphrasant Marx, que toute l'histoire de l'humanité est une histoire de génocide. Donc quand on commence à vouloir comptabiliser les génocides, c'est sans fin. Il y en a autant qu'on veut. D'une façon un peu empirique, chez les historiens, il y a l'idée qu'il y en a trois. Les Arméniens, le Rwanda et le génocide des Juifs. Alors, le génocide des Arméniens par les Turcs, des Tutsis par les Hutus. Mais chaque fois qu'on regarde, on s'aperçoit que les particularités de chacun d'entre eux sont très fortes. Par exemple, bon, moi je ne suis pas une grande spécialiste de l'histoire du Rwanda, mais j'aime beaucoup les livres de Jean Hatzfeld. C'est cette façon dont les populations Hutus et Tutsis étaient mêlées. Ces voisins qui viennent 8 heures par jour tuer à la machette les gens avec qui ils sont allés à l'école. C'est quelque chose qui est propre au Rwanda. On n'a pas la même chose chez les Arméniens, on n'a pas la même chose chez les Juifs. La particularité de l'antisémitisme nazi, c'est qu'il est, j'ai presque envie de dire, global, pour être un peu à la mode. C'est-à-dire qu'il veut extirper tous les Juifs d'Europe, c'est-à-dire pas simplement les voisins juifs, pas simplement d'Allemagne, et qu'il y a l'idée que, il y a, que la race aryenne est détruite par les Juifs. On ne trouve pas ça dans les autres génocides. Donc moi, je ne proclamerai pas l'unicité, parce que en fait, il y a aussi unicité de la situation au Rwanda ou de l'Arménie. Je pense que vouloir penser ensemble tous les génocides, c'est d'abord pas une démarche d'historien, hein, c'est une démarche plutôt de politiste que d'historien. Nous, on ne cherche pas à modéliser, on cherche au contraire à contextualiser, à montrer ce qu'il y a de commun et de différent. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça obscurcit la compréhension et c'est céder à la volonté que chacun soit victime, que toutes les victimes soient à part égale, ce qu'elles sont bien évidemment. Mais historiquement, les choses ne sont pas les mêmes.